Europe 1 Soir, 19h-20h,
Hélène Zélani.
19h20 sur Europe 1, merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. 5,5%, c'est le chiffre du jour dévoilé par l'INSEE. Le déficit public pour 2023 s'élève donc finalement à 5,5% du PIB, 154 milliards d'euros. Et c'est, comme on s'y attendait, bien plus que les 4,9% prévus par Bercy. On en parle avec vous, Anne-Sophie Alsif, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste du cabinet de conseil BDO France. Merci beaucoup d'être à mes côtés dans Europe 1 Soir. Alors maintenant, on fait comment ? Je voudrais qu'on essaie d'être le plus concret possible. Où l'État peut-il trouver de l'argent ? Est-ce que c'est plutôt en faisant des économies ou en trouvant des nouvelles rentrées d'argent ?
Alors, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que l'État peut trouver de nouvelles entrées. Ça veut dire augmenter les impôts. Alors après, la question, c'est quels impôts ? La Cour des comptes déjà nous dit que cette année, il y aura à peu près 3 milliards d'impôts de hausse d'impôts dans différents domaines. C'est sûrement des niches fiscales qui vont être abaissées, des aides qui vont diminuer. Donc, on aura déjà quelques hausses d'impôts. Après, l'idée du gouvernement, c'est de ne pas trop aller vers cette loi, puisque on ne veut pas augmenter, par exemple, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, ce type, ou la TVA, par exemple. Donc ça, c'est non pour le gouvernement en termes de hausse d'impôts pour l'instant. Même si on voit que maintenant, il y a un petit peu des champs, notamment sur des taxes sur les super-profits ou des taxes exceptionnelles qui pourraient peut-être être ouvertes au Parlement. Mais en tout cas, pour l'instant, la ligne, c'est pas de hausse d'impôts. L'autre élément, ça serait en effet d'agir sur les dépenses. On le dit souvent, hein, on a un taux de dépenses qui est les plus élevés au monde. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que la majorité de ces dépenses publiques, hein, donc de l'État qui dépense cet argent, c'est du revenu. Donc, c'est du revenu pour vous, moi, pour l'ensemble des Français, sous forme d'aide, d'APL, de sécurité sociale. Et dans un pays où le principal moteur de cette croissance, bah, c'est la consommation, c'est vous qui allez au supermarché, qui allez plus ou moins consommer, et c'est grâce à ça qu'on n'est pas en récession, qu'on a un minimum de croissance, et bien toucher massivement à ça, c'est compliqué. Parce que la récession, c'est le pire pour la dette. Donc, c'est un petit peu les deux moyens de réduire ce déficit. Et donc, on voit que ce n'est pas évident pour le gouvernement.
Alors, si on se met donc à la place de nos auditeurs, on se dit, OK, il y a quand même beaucoup d'argent à essayer. Enfin, il y a un trou qu'il faut remplir, il y a un déficit qu'il faut remplir. Les hausses d'impôts, c'est non. Le gouvernement l'a dit très clairement. Bon, on approche d'élections. On sait qu'évidemment, les hausses d'impôts, ça n'est jamais très populaire. C'est tenable pour vous de continuer sur cette ligne, les impôts n'augmenteront pas ?
Alors, c'est tenable si on a plus de croissance économique. Or, la croissance économique se décrète pas et on voit que, on l'a vu encore le mois dernier, hein, les hypothèses de croissance pour cette année du gouvernement étaient très hautes. On était à 1,4%, ils ont revu à la baisse à 1% et donc ils essaient de chercher 10 milliards d'euros. Donc c'est vrai que si on a par exemple plus de 1,5% de croissance, il y a moins besoin d'augmenter les impôts ou de faire des économies. Donc là, ce ne sera pas le cas. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, hein, on ne peut pas compter sur une grande croissance. C'est difficile d'aller sur les impôts, hein, on l'a dit. Eh bien, c'est vrai que c'est vraiment le chemin de la dépense qui semble privilégié par le gouvernement, donc essayer de faire des économies.
Alors, j'aimerais qu'on prenne en ligne François qui nous appelle de Bretagne. Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'intervenir en direct sur Europe 1. Vous, on parle d'impôts. Est-ce que quand on voit l'ampleur du déficit de la France, ça vous paraît envisageable de faire un effort supplémentaire ?
Écoutez, moi je pense que c'est encore une année de plus. Donc on a effectivement du déficit, ça fait 40 ans. On a du déficit structurel en France. Il n'y a qu'une seule année, en fait, depuis 40 ans qu'on n'a pas de déficit. C'est le jour, effectivement, où on a vendu les actions d'Air France. C'était sous gouvernement Jospin, avec Chirac. Et depuis, en fait, toutes les années, depuis 40 ans, on n'a que du déficit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec le Covid, avec effectivement le sauctage des banques qu'il y a eu, on a 3300 milliards de dettes. Ce qui veut dire que globalement, aujourd'hui, on est dans un État en faillite. Il faut le dire les choses. Enfin, vous avez effectivement une chef économiste à côté de vous.
Oui, justement, c'est une question que je comptais lui poser.
Voilà.
vous estimez, vous avez le sentiment de vivre dans un pays en faillite ?
On est en faillite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les recettes et dépenses, il est impossible de récupérer la dette. Et dites-vous bien, ça c'est bien si on, effectivement, on avait des sources de croissance qu'on n'a pas. On n'a aucune source de croissance. Les 3300 milliards, aujourd'hui, on les rembourse pas, on ne paye que les intérêts de la dette.
Alors...
Et on emprunte sur les intérêts de la dette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si un banquier vous prêtait une somme d'argent pour acheter votre maison, et tous les ans, vous allez l'emprunter pour payer les intérêts de cette maison.
Alors, tout ce que vous dites est extrêmement intéressant, François. Comme vous l'avez bien rappelé, nous sommes avec Anne-Sophie Alsif, qui est chef économiste au cabinet de conseil BDO et qui connaît extrêmement bien ces sujets, bien mieux qu'on croit, c'est sûr. François a soulevé plusieurs points très importants. Il dit que c'est impossible de récupérer la dette. Est-ce que là-dessus, vous le suivez ou pas ?
Oui, tout à fait. Mais si je peux me permettre, la grande différence, c'est qu'un État n'est pas une entreprise ou n'est pas un ménage. Et c'est ça la grande différence. Les États-Unis sont endettés, ont un déficit de plus de 6%. Ce n'est pas grave parce qu'ils sont endettés en dollars. Le Japon a une dette publique de 240% du PIB. Ce n'est pas grave puisque la majorité de sa dette appartient aux Japonais. Nous avons une dette de 3000 milliards, comme l'a très justement dit votre interlocuteur. Ce n'est pas grave aussi parce que quand on regarde les investisseurs, on a 3000 milliards d'épargne sur nos comptes. Votre livret A, vos LDD. Bah ça, on en a plein d'épargne. Par exemple, aux États-Unis, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle le collatéral. Votre banquier, souvent, quand vous voulez justement aller le voir et emprunter, vous dit « Très bien, mais qu'est-ce que vous avez comme actif ?» Et vous devez lister tout ce que vous avez. Et en fonction de ce que vous avez, bah même si vous n'avez pas le cash, il va quand même vous prêter pour acheter votre maison parce que vous allez avoir peut-être un tableau, vous allez avoir quelque chose de grande valeur. Et bien, l'État, c'est ça, fois 10, fois des proportions énormes. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a la fameuse Banque Centrale Européenne. Alors cette banque, c'est assez magique, hein, on a dit c'est la fin de l'argent magique, mais c'est vrai qu'elle produit de l'argent magique. Vous, moi, vous allez voir d'autres banquiers, il ne va pas vous produire de l'argent magique parce que vous n'avez pas remboursé votre crédit. Et donc c'est pour ça que ce que votre auditeur dit est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'il compare l'État à un ménage ou à une entreprise et c'est différent.
Et je voulais aussi vous interroger sur un autre point qu'a soulevé François. Il dit que la France n'a aucune source de croissance.
Alors ça aussi, hein, c'est faux. Ce qu'on voit dans l'ensemble des pays développés, hein, donc ce n'est pas que la France, c'est qu'en effet, on a un ralentissement de la productivité. Parce qu'on a le vieillissement de la population, la révolution numérique, etc., la démographie. Et ça, en effet, ça crée moins de croissance. Par contre, on n'a pas besoin, et de toute façon, quand vous êtes dans un chemin de croissance, hein, au début, vous avez 5-6% de croissance parce que vous émergez. Et ensuite, c'est normal d'avoir une croissance qui est moins importante. L'exemple, c'est la Chine, hein, aujourd'hui, qui devient un pays de plus en plus industrialisé. Son taux de croissance baisse. Donc ça, c'est normal. Après, c'est vrai qu'on a un taux de croissance qui est assez bas. Hein, on parle de croissance potentielle à 1,2-1,3%. Donc c'est faible. Il nous faudrait plutôt du 1,5% pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Mais on a des relais de croissance. Alors, on l'a dit, hein, quel relais de croissance ? On a déjà, parce que c'est toujours dans les relais de croissance, c'est on se compare par rapport aux autres. Quand vous regardez les investisseurs, hein, des gens qui investissent en France, on est quand même la première destination en Europe où les investisseurs vont, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni. Eh bien, ils disent, oui, on a une certaine stabilité politique. Oui, par rapport aux autres, c'est vrai. On a des institutions qui sont solides. Oui, par rapport aux autres pays, c'est vrai. On a de bonnes infrastructures. On a justement des services publics adaptés. On a une bonne éducation, une bonne santé, même si bien sûr on peut tout critiquer. Et donc finalement, eh bien, on est un peu moins malade que les autres. Et donc ça satisfait bah, beaucoup de financiers, d'investisseurs qui nous trouvent attractifs et donc qui nous permettent d'avoir de l'investissement.
Alors, Anne-Sophie Alsif, chef économiste, juste un mot, François, parce que là, on doit faire une pause. Dites-nous, vous avez entendu les arguments qui sont quand même assez justes, ou on peut pas dire le contraire, quand vous entendez les explications d'Anne-Sophie.
Alors, il faut bien trouver une source d'optimisme, elle a raison, parce qu'il y en a peu. Mais, alors, effectivement, première source, effectivement, de destination des entreprises, comment expliquer qu'on a une balance commerciale désastreuse qui est déficitaire. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on a une croissance qui est depuis des années, en fait, à 1%, qui est scotchée à 1% parce qu'aujourd'hui, on a trop d'impôts. On a trop d'impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la masse d'impôts, c'est un Français sur deux, un foyer fiscal sur deux qui le paye. Et vous voyez qu'il y a une grosse proportion des gens en France qui payent de l'impôt. Et c'est ça, en fait, qui pèse sur le ménage.
On entend bien ce que vous dites. Merci beaucoup, François. On va continuer à parler de ce déficit, de ce que vous soulevez. Hein. Est-ce qu'on paye trop d'impôts ? Est-ce qu'on risque d'en payer encore plus ? Ne bougez pas, on y revient dans un instant.
19h-20h, Europe 1 Soir.
Et à 19h35, nous sommes toujours avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BTO France, pour parler des solutions face au déficit. Notre auditeur, François, juste avant la pause, était assez pessimiste, il faut le reconnaître. Il disait même que la France était aujourd'hui en faillite.
Alors non, hein, la France n'est pas en faillite. Par contre, en effet, ce déficit est très important. Hein. Normalement, il faudrait avoir 3% de déficit. Et on explique qu'on est à 5,5%. Donc on l'a beaucoup dépassé. Donc ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que ça veut dire aussi qu'on doit emprunter sur les marchés pour financer justement ce déficit. Et cet argent qu'on emprunte, eh bien, son prix, hein, comme vous, votre taux d'intérêt, quand vous avez un prêt immobilier, eh bien, augmente. C'est-à-dire que, par exemple, chaque mois, au lieu de payer 100 euros, bah, vous allez payer 200 ou 300 euros. Bon, bien, forcément, hein, ça va gréver vos budgets quotidiennement. Eh bien, c'est pareil pour l'État. Et c'est ça, la mauvaise nouvelle, c'est que, avec cette situation, hein, dégradée des finances publiques, on emprunte plus dans un contexte où les taux, justement, ont augmenté. Vous le savez, si vous avez voulu, acheter une maison ou un appartement. Et donc, l'État doit consacrer plus d'argent au remboursement de la dette. Et forcément, cet argent ne va pas à l'éducation, à la santé, aux fameuses priorités.
Alors, l'objectif, c'est de ramener le déficit sous les 3% du PIB en 2027. Hein, c'est ce que promet Bruno Le Maire. C'est réaliste, selon vous?
Alors, nous, en effet, on fait des prévisions. On trouve que ce n'est pas réaliste, hein, que le compte n'y est pas. Pourquoi? Parce que, justement, la croissance, comme on en a parlé, ne sera pas suffisante pour créer assez de richesses. Et puis, l'autre élément, hein, c'est aussi la conjoncture internationale, hein, qui est quand même dans une situation, les risques géopolitiques, le ralentissement, on l'a dit, de la Chine. Les États-Unis se portent bien, mais la Chine ralentit. Et donc, c'est vrai que les conditions macroéconomiques, on l'a vu l'année dernière, avec l'Allemagne, qui est en récession, notre premier client, eh bien, font que ce taux de croissance et ces perspectives sont quand même un petit peu assombries. Et donc, de baisser le déficit, on dit, hein, le meilleur élément pour baisser le déficit, c'est de la dette publique, de la croissance économique, eh bien, on n'en aura pas assez pour avoir cette baisse et être à 3% en 2027.
Voilà, donc c'est pas gagné. Je vous remercie beaucoup d'avoir été extrêmement claire, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France.
Merci.